Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca.
Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Triste jour. Troisième trimestre négatif en termes de croissance économique et non pas PIB négatif, comme dirait la presse.
La presse puis les compétences en économie, ça va super bien.
Fait dur. Hein? Ils l'ont-tu fait ce coup-ci? C'est une couple de trimestres qui avait fait ça. Oh my God! Mais non, là, c'est... Récession, pas récession. Girard dit non, c'en est une. Ah, la sémantique!
C'est parce que je pense qu'il y a un lien avec ce dont tu veux parler, là. Mais tu sais, le texte de Vincent Brousseau-Pouliot, là, publié dans la presse, où il dit, le texte s'appelait « Non, les impôts ne nuisent pas à l'économie ».
Le texte qui s'est fait défoncer sur Twitter par Gélozo, puis une fois de plus dans la presse, oui, par Robert Gagné.
Oui, parce que la presse, on demandait, as-tu quelqu'un qui veut un droit de réplique? Vincent était couché dans son lit, puis il attendait la fin du monde.
Mais il l'a fait pareil, mais il l'a fait sur Twitter.
Il l'a fait sur Twitter. Ça a dû le mettre au feu, ça a dû leur mettre le feu au derrière. Et Robert Gagné, donc Robert Gagné, directeur du Centre de la productivité et de la prospérité au HEC Montréal, c'est de lui dont on avait parlé aussi de son rapport sur la prospérité et la productivité au Québec. Ça, c'est tout relié. Tout ce que Yann va jaser après, c'est relié à ce qu'on est en train de dire. Donc lui, sa réplique... À Brousseau-Pouliot, il dit « Je me permets de répliquer à la chronique de Vincent Brousseau-Pouliot parue dans la presse le 19 mars dernier où il affirme sans aucune nuance qu'il est faux de prétendre qu'un fardeau fiscal plus lourd nuit à l'économie. Ce faisant, il critique directement la modeste baisse d'impôts consentie par le gouvernement l'an dernier. L'analyse du chroniqueur s'appuie sur des études économiques rigoureuses mais dont les résultats sont valables en moyenne. Et dans ce cas, la moyenne est fortement influencée par un bon nombre de pays européens. Or, cette moyenne se prête très mal au cas du Québec pour deux raisons fondamentales qu'ignore complètement M. Brousseau-Pouliot. 1. Le Québec n'est pas un pays européen. Nous appartenons à un espace économique totalement différent et dans cet espace, nous occupons la position de tête en matière de fardeau fiscal. Notre principal partenaire économique, les États-Unis, est environ 40 fois plus gros que nous et nous ne partageons pas la même monnaie. Il est aussi beaucoup plus riche que nous et offre un fardeau fiscal beaucoup moins lourd. Notre voisin immédiat, l'Ontario, avec lequel nous faisons beaucoup d'affaires, est 1,5 fois plus gros que nous, tout en présentant lui aussi un fardeau fiscal moins lourd que le nôtre. Notre fardeau fiscal plus lourd plombe la compétitivité de nos entreprises, et par conséquent, celles-ci innovent moins, investissent moins et sont moins productives, ce qui a un effet sur notre niveau de vie. Bref, nous sommes plus pauvres. Deuxième point, l'analyse de Vincent Brousseau-Pouliot omet aussi de considérer la composition de notre fardeau fiscal. En Amérique du Nord, on taxe davantage les revenus et moins la consommation, avec la TPS et la TVQ au Québec, par exemple. En Europe, c'est exactement le contraire. Pourtant, la littérature économique est très claire à ce sujet. Les taxes les moins dommageables pour l'économie sont les taxes à la consommation. Malheureusement, le Québec nord-américain ne peut s'éloigner de l'équilibre fiscal en vigueur sur notre continent au risque de nuire davantage à la compétitivité de nos entreprises. Au Québec, nous utilisons un fardeau fiscal parmi les plus lourds de notre région du monde depuis presque 50 ans et nous sommes parmi les plus pauvres de cette région. Manifestement, la moyenne n'est pas représentative de notre situation particulière. Pour ma part, j'applaudis tout effort de réduction de notre fardeau fiscal. C'est de cette manière qu'on dynamisera notre économie et qu'on pourra se payer les services publics qu'on souhaite tout simplement parce que nous serons collectivement plus riches.
Écoute, Frank, il y a un aspect qui est négligé du texte de Robert que j'aimerais ajouter. Admettons que ton système de santé est universel puis que la prime d'assurance que tu paies pour ce système de santé-là soit publique, comme au Québec.
Oui.
Et que le service est octroyé par le privé de manière compétitive.
Mm-hmm.
Tu peux avoir un fardeau fiscal élevé et malgré tout, avoir de l'activité économique plus élevée juste en faisant cette mesure-là.
Absolument.
Tu sais, je veux dire, l'affaire qui cloche au Québec, là, c'est qu'on taxe beaucoup et le gouvernement se prend pour une PME. C'en est pas une. Je vous le jure que c'en est pas une. Mais plutôt que de laisser le privé et le secteur compétitif délivrer les services, il essaye de faire lui-même. Chris, il vous vend du vin. Les Français, là, c'est tout le gouvernement qui vend le vin. Ils ont des taxes élevées, mais c'est pas le gouvernement français qui vend le vin, calvaire.
Ah non. Même en France, il y a des hôpitaux privés, là.
Calice! C'est quoi, vous comprenez pas?
Ah non,
tu peux avoir des services publics, tu peux taxer fortement sur ces services publics-là, mais t'es pas obligé de délivrer le service toi-même. Nous autres, c'est des fonfons qui font tout. Puis les fonfons, ils font rien.
Mais je trouve que c'est un bon exemple de désinformation, ce qui a été fait dans la presse. Tu sais, eux autres, ils disent la désinformation, c'est dans des podcasts, sur Internet, dans leur sous-sol. C'est quoi déjà l'expression? Le podcast en bobette dans le sous-sol. Ça, regarde, je l'ai entendu à ma connaissance.
Je suis au rez-de-chaussée. Je suis peut-être en bobette, mais je suis au rez-de-chaussée. OK? Come on.
Ouais. Ben moi, j'ai mis mes culottes aujourd'hui. Fait que je suis correct, là. Je ne suis pas en bobette. By the way, je n'ai jamais fait le podcast sans pantalon. Mais pour l'instant. C'est un bon exemple de désinformation parce qu'en gros, qu'est-ce que le gars fait? Les chiffres qu'il donne sont vrais. Les éléments de comparaison qu'il fait sont vrais. Le gars, il n'a pas écrit de choses factuellement.
C'est un biais de confirmation à côté. Là,
c'est ça. Gens. Par contre, ce que Robert Gagné explique, c'est « Ouais, mais c'est parce que là, tu prends un cadre de référence qui n'est pas le bon. » Puis ça, là, ça serait le fun que les maires communistes du Québec le comprennent, que les gens qui écrivent dans les médias le comprennent. Le Québec n'est pas un pays d'Europe. Les histoires d'aller à Copenhague pour aller voir des bicycles et des trottinettes électriques puis des rues à sens unique, puis dire « Hey, c'est parfait, on va faire ça à Montréal ou à Sherbrooke. » Oui, mais vous êtes en Amérique du Nord, les amis. Il faudrait que ça vous rentre dans la tête à un moment donné. Toute notre société a été bâtie, pas il y a 2000 ans, 1500 ans, 500 ans. Ça a été bâti il n'y a pas si longtemps que ça. La plupart des villes ont à peine une centaine d'années. Que ça n'a pas été bâti à l'époque des calèches puis tout ça. Là.
C'est du cherry-picking aussi, Frank. Oublie pas une chose. Là. C'est, les pays suédois, ils taxent. Là. Les Scandinaves, ils taxent lourdement. Puis il y a des services. OK. C'est l'ancienneté, les syndicats, là-bas.
Ouais, puis comme on avait déjà vu avec Vincent, la grosse différence, puis ça revient au point que tu faisais précédemment, c'est que les pays scandinaves, comme par exemple la Norvège. Norvège ayant je pense, le niveau de vie le plus élevé au monde, c'est en Norvège, en termes de revenus disponibles par habitant.
Ils ont aussi le plus gros fonds souverain au monde.
Oui, merci. Mais l'autre point important, c'est que la redistribution se fait beaucoup plus directement que chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es riche, tu payes de l'impôt. L'impôt, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils apprennent, ils font un chèque aux pauvres. Je tourne les coins ronds, mais vous comprenez l'idée. Ici, ils prennent l'impôt, ils font un programme, puis au bout, mettons que le gouvernement a pris à Yann 1 000 $ en disant c'est pour donner aider un pauvre. Okay? On prend un chiffre rond pour donner une idée. En Norvège, il y a 900 $ qui vont aux pauvres, 100 $ pour qui se perdent dans le niaisage, qui ont quand même un gouvernement là-bas. Ici, ils prennent 1 000 à Yann, puis ils donnent 33 $. Aux pauvres. C'est un peu ça l'ordre de qu'il faut comprendre. Vous comprenez, c'est des chiffres fictifs. J'essaie de vous expliquer le principe qu'il y a en arrière. L'aide, elle se fait direct plutôt que par des programmes.
C'est un peu de notre faute. Parce que quand on identifie les problématiques, parce que c'est Brousseau Pouliot, tout ce qu'il fait, là, c'est essayer de répondre à une droite démagogique. T'sais, il se prend pour un journaliste, moi je sais. Fait qu'il est dans le biais de confirmation par-dessus la tête parce qu'il a vu un papier quelque part qui disait que les impôts, c'était pas grave. Il a fait j'ai un argument, enfin, je peux fermer la gueule à des gens qui sont tout le temps en train de dire qu'on est trop taxés. Tu sais, il y a un bonheur à y penser, imagine-toi. Comme Francis Veil qui a eu un bonheur hier à se rendre compte que, hey, il y a quelqu'un qui dit que la taxe carbone, ça marche pour de vrai, man. Oh, yes, sir.
Eux autres, si quelqu'un peut dire du bien de Trudeau,
Hey, c'est du biais de confirmation à côté. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. C'est un peu pourquoi je dis que c'est un peu de notre faute? C'est que nous, quand on arrive et qu'on identifie qu'est-ce qui va mal au Québec, qui est-ce qu'on pointe? On pointe le gouvernement, on dit le public, c'est de la merde. C'est pas tout à fait ça. Ce qui est de la merde, en réalité, c'est le monopole.
Oui, effectivement.
Puis ça, c'est le défaut qu'on a. C'est que ce qui marche bien, ce qui fonctionne bien, c'est pas le privé. Faites un monopole privé, ça va être là, c'est une merde. OK? Ce qui marche bien, c'est la compétition. C'est ça qui fonctionne bien. C'est la mise en compétition de diverses entités qui peuvent être publiques et privées sans aucun problème. Puis ça, c'est ça qu'il faut qu'on se rende dans la tête. Puis même à droite, il faut qu'on ajuste un peu notre discours parce qu'en identifiant tout le temps le public comme étant le problème, mais ça leur donne l'opportunité de dire « Ben non, regarde, eux autres, ils taxent beaucoup puis ils n'ont pas de problème. » Oui, mais ils ont une économie plus compétitive que la nôtre. Ils ont une économie plus productive que la nôtre. C'est directement les champs de compétences de Robert Gagné, by the way.
C'est le spécialiste au Québec de la chaire sur l'étude sur la productivité.
Je pense qu'il sait de quoi qu'il parle. Je pense qu'il sait de quoi qu'il parle. S'il dit que le fardeau fiscal présentement est nuit, probablement qu'il a raison. Vous voulez garder vos taxes élevées parce que vous aimez ça payer des taxes comme des cochons? Pas de trouble. Mais Christy, organise-toi que les services publics soient de qualité. Nos services publics ne sont pas de qualité. La seule place qui est un peu moins pire, c'est l'éducation. Puis sais-tu quoi? C'est moins pire, non pas dans les programmes réguliers, dans les programmes spéciaux, sport-études, hors-études, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mis en compétition avec le privé au Québec. Il y a 22 % d'écoles privées et semi-privées au Québec. That's it! C'est la seule raison. On le fait, on réussit. Dans certains domaines, on a réussi sans faire exprès. Puis on n'est pas capable d'étendre le modèle. Mais pourquoi l'éducation, c'est moins pire que la santé au Québec en termes de services de cul? Ben c'est parce qu'il y a une mise en compétition, puis il y a du public pareil, là. C'est-à-dire, c'est quand vous allez vous enlever la marde dans les yeux, là?
Ben, écoute, on pourrait prendre un autre exemple qui nous concerne vraiment. Imaginons qu'au Québec, il y avait un seul podcast. Est-ce qu'il serait bon?
Il serait mauvais en sacrement. C'est genre l'émission de Paul Arcand à Montréal, tu sais.
Ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait, l'absence de compétitivité.
Ça donne Paul Arcand.
Ça fait, ben c'est ça. Ça donne l'émission de Paul Arcand, puis c'est
pas écoutable.
T'es assis, puis même encore là, il n'y a pas de compétition parce qu'il est trop en avance de tout le monde, mais il est quand même dans un marché de compétition. Imaginons que les autres sont interdits par la loi.
C'est encore plus mauvais.
Ben c'est ça, mais c'est ça le système des monopoles. Puis comme tu l'as bien dit, tu sais, des fois, on a le faux débat sur est-ce qu'on devrait. Tu sais, la SAC, ça devrait-tu être privé? Non. La SAQ ne devrait pas être un monopole privé. On devrait avoir de la liberté dans le marché. La SAQ peut continuer d'exister, mais le Costco peut vendre des bouteilles de Jack Daniel. C'est quoi le problème? Ils vont juste se compétitionner l'un l'autre. Quand il y a de la compétition, ça faisait peur aux péquistes. Il y a une guerre de prix.
Ils ont légiféré une couple de fois pour ça. Là. Les guerres de prix dans les essenceries, c'est une fatalité.
Ça, c'est vraiment grave. Faudrait
on va mettre un prix plancher.
Si quelqu'un osait vendre le gaz moins cher à quelqu'un d'autre, mon Dieu, quel drame national.
Ah non, mais eux autres, parce qu'ils voyaient dans le futur, ils disent qu'il va y avoir moins d'essenceries, les petits vont mourir, puis il faut protéger les petits.
Et là, la raison pour laquelle on parle de ça, c'est que là, il y a eu toutes sortes de débats. Rappelle-toi Girard avec son scénario de licorne. J'ai pas vu le commentaire, j'ai juste vu le mot sexe dedans, fait que Joey dit
le titre du podcast monopolistique. On prend tous un sexe oral sous écoute pour dire bonjour tout le monde à Yann et Frank.
Un genre de melting pot, ça serait bon pareil.
Ça serait mauvais en sacrament.
Ouais, ça serait mauvais en sacrament. Je sais pas c'est qui va jouer le rôle de l'invité dans le podcast à Legault, là, mais... fait que c'est ça, c'est que, tu sais, là, c'est le deuxième budget auquel t'assistes. Pas Rémi Girard, moi, matin, je mélange tout.
Éric.
Ça, c'est le gars qui faisait Pogo dans Petite Vie. Bon, Éric Girard, aurait pu jouer dans Petite Vie aussi, pour vrai. Là. Ouais. Mais lui, il a tout le temps des scénarios licornes. Il n'y aura pas de récession, les taux vont baisser, tout est parfait. Les gens vont accepter les propositions de convention collective comme telles. Puis, c'est ça, il n'y en a pas de problème. Est-ce qu'il y a des genres de budget arc-en-ciel, finalement?
Ah oui.
C'était-tu écrit « Ça va bien aller » sur le dessus du...
Ah, pour moi, ils ont pensé.
D'après moi, ils ont pensé. Puis là, toi, ce que tu nous dis un matin sur ton compte Twitter, je pourrais peut-être, je suppose pas nécessairement important de faire apparaître le tweet, mais en gros, ce que tu dis, c'est là, on est rendu au troisième trimestre de croissance négative au Québec. Normalement, là, il y a des débats sémantiques, là, récession pour récession, mais normalement, la définition classique, c'est quoi? C'est deux trimestres négatifs consécutifs pour une récession?
Oui, non. OK, oui, non. La récession technique, ça va être deux trimestres négatifs. L'affaire, c'est que... Comment je te dirais ça? I don't care si c'est récession ou pas. Tu sais, c'est comme ton économie croît à 0,1%. Hey, yes, on n'est pas en récession.
Ton économie... stallé, là, Chris.
Ouais, c'est ça. Puis ton économie croît à moins 0,1%. Hé, là, on est en récession. Qu'est-ce que ça change? Je veux dire, tu es à 0,2% d'écart entre les deux. Tu sais, c'est juste, s'il n'y avait pas de journaliste économique, bon rien en finance, là, le terme récession ne serait pas utilisé tant que ça. C'est juste quelque chose qui marque l'esprit, les récessions, parce que souvent, il arrive des affaires graves là-dedans, des taux de chômage qui augmentent, de la misère, de la faillite, des choses comme ça. Fait que, tu sais, présentement, côté technique, si on prend vraiment une définition très, 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 très basique d'une récession, on est dedans, c'est clair. Trois trimestres négatifs, c'est une récession par défaut. Bon, le taux de chômage n'est pas à 10 %. Le taux de faillite, il est en hausse, mais tu sais, sacrément pas à la fin du monde encore. Fait que, tu sais, est-ce que tu peux faire un argument pour dire on n'est pas vraiment en récession? Oui. Biden, ça y est arrivé, by the way, l'année passée, ou il y a deux ans, je pense.
Ouais.
Il y avait eu deux trimestres négatifs aux États-Unis, puis à toute fin pratique, l'économie allait vraiment bien. Tu sais, le taux de chômage était en bas de 4 % là, ou tout près de 4 %. Caler dire que c'est une catastrophe, puis qu'on est dans la récession avec un taux de chômage de 4 %, c'est un peu weird. Fait que c'est pour ça qu'il y a des nuances qui sont amenées, parce que le contexte est particulier. Sauf que il n'y a rien qui change au fait que le Québec est stallé pareil. Il y a de l'eau dans le gaz. Puis rappelons où est-ce qu'on vit. On vit en Amérique du Nord. Le voisin au sud, il n'est pas stallé. Là. Il est zéro stallé. Ça va bien. Ça roule. Il y a de la job. Fait que là, comment qu'on fait pour redonner un coup de crinque à ça? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on a eu, puis dis-toi une affaire, là, on a trois trimestres négatifs, malgré le fait, puis tu sais, pense-y, là, c'est Q3, Q4, puis Q1, même pas, c'est dans le fond, c'est Q2, Q3, Q4. Ben, on est vraiment dans une position qu'on avait baissé les impôts l'année passée. Là.
Mm-hmm.
On est tombé en récession malgré le fait qu'on avait donné un break aux contribuables, puis qu'on avait donné des chèques aux aînés aussi. Pense-y, c'est débile. Ça aurait été pire. Ça aurait été pire.
Ouais.
Mais là, mettez-vous dans la peau des investisseurs. Okay? Ceux-là là, qui ont de l'argent un peu dans les poches puis qui veulent développer des bâtisses, qui veulent faire un agrandissement d'entreprise, qui veulent faire une acquisition d'entreprise, qui veulent vendre leur entreprise, qui veulent se lancer en affaires. Tous les gens qui ont le potentiel d'investir. Les taux d'intérêt ont monté fortement. Fait que c'est quand même assez dur à emprunter, c'est pas agréable, ça nuit à la rentabilité des projets. Fait qu'évidemment, il y a moins de projets qui se font à cause de ça. Mais là, tu regardes le gouvernement aller et tu dis « Va-tu avoir un break un moment donné?
Uh-huh. »
Parce que là, c'est pas quelque chose que les gens font consciemment. T'sais. Je l'illustre un peu, je raconte l'histoire, j'illustre un personnage qui a cette réflexion-là. Mais il n'y a personne qui a cette réflexion-là réellement. C'est l'affaire, c'est quand il y a un pessimisme économique ambiant, généré notamment par des déficits gigantesques d'un gouvernement, 11 milliards de déficits, c'était peur, hein? Ben, tu es dans une position, tu te dis, sans t'en rendre compte, tu as l'impression que les taxes et les impôts vont augmenter dans le futur. Donc, ton goût comme entrepreneur, comme investisseur, d'investir, de starter des nouveaux projets, de faire des agrandissements, d'aller de l'avant avec des choses, il diminue. C'est directement attaqué. Fait que là, il y a moins d'investissement de capital qui se fait, puis tout vient qu'à ralentir. C'est aussi simple que ça, là. La pénurie de main-d'œuvre, ça en vient pas mal réglée. Les entreprises recommencent à avoir des CV. Puis même les entreprises qui sont au bas de l'échelle, qui sont à l'entrée, là, le détail, par exemple, le fast-food ou peu importe, ils recommencent à avoir des CV pour de vrai. Les gens ont faim, les gens ont besoin de travailler. Fait que là, présentement, là, il va falloir qu'il y ait un wake-up call. Le Québec ne va pas bien économiquement. Ah, mais l'Ontario, Legault, il fera toutes les comparaisons du monde avec l'Ontario. On s'en
non, compte. Mais regarde, on peut les voir. Là, ça, c'était dans un article de Gérald Filion un matin dans ICI Radio-Canada qui parle un peu de la même affaire que toi. Là. Puis, tu sais, on regarde les finances publiques, là. Ah, le Nouveau-Brunswick a un surplus, l'Alberta a un surplus, la Saskatchewan a un léger déficit, là. On est quand même dans un ordre de grandeur qui n'est pas si mal que ça. Terre-Neuve, Ville-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, il y a juste finalement le BC qui est pire que nous autres.
Puis, oublions pas une chose, c'est que historiquement, le Québec figure bien dans ce genre de comparaison-là.
Ouais, ben ça, c'était pré-CAC, là.
Non, mais c'est vrai. Historiquement, oui. Avec les libéraux de Philippe Couillard, on paraissait toujours bien dans ce type de comparaison-là. On a perdu ça. Fait que, tu sais, tout ça amène un négativisme ambiant, un pessimisme qui est évident.
Mais Danielle Smith, c'est une folle. Hey, c'est ça qu'on nous dit.
Fuck off.
Elle est dangereuse, elle est cinglée.
Non, elle donne espoir au monde. Elle crée un environnement réglementaire favorable. Puis ça, c'est l'autre affaire. L'environnement réglementaire n'est absolument pas favorable. Hey, je veux dire, on est rendu pour essayer. On fait un déficit de 11 milliards. Puis pour essayer d'aller ramasser un peu plus d'argent, on s'invente une lubie comme de quoi qu'il y aurait des gens qui crossent le système dans les ventes de véhicules usagés. Ces gens-là, c'est des crosseurs, ils font des ventes à 1$ pour ne pas payer de la TVQ. Il y en aurait 130 000 par année. Puis là, pour pincer les crosseurs, là, on va aller chercher 255 millions sur 5 ans. On va dire que le guide de l'auto va s'appliquer de 9 à 14 ans. Fait que les minounes de jusqu'à 14 ans, le prix de vente au détail va être déterminé par le gouvernement pour calculer la taxe. Calvause, là. T'es en train d'aller chercher de l'argent dans le pauvre. T'es en train d'essayer d'aller chercher de l'argent chez le pauvre monde. Là.
Déjà, en partant, un char usagé ne devrait pas être taxé. Là.
Jamais.
Il a déjà été taxé une fois, Carlis. Combien de fois vous voulez fouiller dans mes poches?
Ben exactement. Puis ça, c'est exactement le point. Tu identifies un problème. Le problème étant, il y a des gens qui font des déclarations de vente à 1$ pour éviter de payer une taxe. C'est problématique, c'est de l'évitement fiscal. Hey, buddy, es-tu venu par la tête de te poser la question pourquoi les gens font de l'évitement fiscal sur un fucking char usagé? Hey, là, on est allé acheter des livres au Éco-Livre, Frank.
Oui,
fucking Éco-Livre. Une belle petite business, le fun. Tu as des livres que tu veux plus lire ou tu as déjà lu et tu ne reliras pas, genre un livre à François Legault. Tu crées ça dans le bac. T'en vas porter ça là, eux autres, ils arrivent puis ils trouvent quelqu'un qui va le racheter, ce livre-là.
Oui.
Mais Calvar aussi, charge la TVQ, man. Il charge la TVQ!
Ben,
c'est un fucking livre usagé! À 2,50$!
Puis le plus drôle là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de TVQ, c'est les livres neufs.
C'est la TPS qu'il n'y a pas?
Je pense qu'il n'y a pas de TVQ sur les mots. Quand vous remarquez...
Il y a une des deux qu'on a... Ah, mais c'est-tu la TPS qu'on n'a pas? Ou il charge la TPS?
Je pense que c'est la TVQ. Il n'y a pas de TVQ sur un livre neuf. Parce que c'est un bien culturel, puis c'est un affaire qui avait été négocié maintenant, ça. Mais ce serait pas impossible qu'il y ait à charge sur un livre usagé. Christ, que ce serait pas impossible.
Ben moi, elle avait des taxes sur sa facture, là. Moi, je vois si elle avait deux, j'ai pas checké.
Mais tu t'en rends vite compte, c'est lequel, parce qu'une une, c'est 5%. Fait que 5%, t'as acheté un livre à 10$, ça augmente pas ta facture beaucoup, là.
Mais Christy, on taxe les livres usagés, calvause. Les commerçants dans les marchés aux puces, ils chargent des taxes. Man, un fucking marché aux puces, le gars, il charge des taxes parce qu'il y a une activité commerciale de biens usagés. Ça va! Les antiquaires chargent des taxes. Hey, la chaise a été construite il y a 150 ans, t'as retaxe. T'es-tu cave, Sti?
On
peut-tu arrêter?
Faut qu'il arrête. Là. Mais on le voit, là, ils ont un problème de dépenses, là, Chris, là, arrêtez. Là.
Fait que, ils nous étouffent. Puis quand il arrive, on a une solution, le budget, ben, pas de problème, on va l'équilibrer ça, le budget, il n'y a pas de trouble, on va taxer les biens usagés, on va taxer le pauvre monde. C'était la même affaire du temps de Bachand, ils n'ont pas de vision. Là. Quand ils étaient dans la merde avec leur Québec dans le rouge, ils sont arrivés avec la taxe santé. Puis la raison pourquoi ils sont arrivés à la taxe santé, c'est qu'ils ont dit on ne peut pas augmenter l'impôt des riches. Les riches, ils ralentissent. À toutes les fois qu'on augmente les impôts des riches, tes astis de crosseurs-là, ils arrêtent de travailler ou ils travaillent moins. Crise de riches. Sont-tu fatigués, eux autres? T'essayes de lui voler de l'argent en bonne et due forme.
Ouais, puis ils veulent pas.
Puis eux autres, ils acceptent pas ça. Ils slackent le travail. Ils disent « Ah ouais, tu veux me taxer plus? Ben, je vais travailler moins. » Christy qui pensait qu'il y a eux autres, les riches. Des astis de crosseurs. Sérieusement, ça n'a pas de sens.
Mais oh!
Tu pensais comment? Avoue comment qu'on était peu pareil. T'es rendu à taxer quelqu'un à 53,4%. Puis tu penses qu'un jour, si jamais t'es dans le trouble, tu pourras peut-être augmenter tes taxes sur ce gars-là. Ça se peut qu'ils travaillent plus pareil.
Mais tu sais...
Hey, c'est de la sodomie, 53,4%. C'est de la putain de sodomie avec aucune vaseline.
Non, 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 il n'y a pas de vaseline, il n'y a même pas de bave. C'est straight pipe. Mais comment je dirais ça? Ça, c'est tous les gens qui sont en train de péter des gasquettes en ce moment. Parce qu'il y a des gens, là, en ce moment, ils pètent des gasquettes. Ils se rendent compte que, Chris, voyons, bon, j'avais un taux variable. Si ça a augmenté comme c'est pas possible, l'épicerie n'est pas achetable, il n'y a rien d'achetable, je ne suis pas capable de me trouver un loyer.
Attends un peu, je sais où tu t'en vas.
Je suis pas capable de trouver rien. C'est quoi l'histoire? Tout est cher, envie de broyer. Mais ça, c'est des gens que quand des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres mondes disaient « Faites attention avec les dépenses du gouvernement pour la pandémie. On a tout compris que vous voulez éviter une crise économique en même temps qu'une crise sanitaire. » Mais beaucoup de gens ont levé le flag en disant « Un moment donné, c'est trop. On en fait trop. » Puis tu sais, il y a plein d'États au sud de notre frontière que, oui, il y a eu un confinement. Après ça, ils se sont calmés les nerfs. Ils ont arrêté un peu de dépenser. On s'est calmés. On a slacké la planche à billets un peu. Puis nous autres, ben, on avait des gens qui en redemandaient. Le party pyjama, est-ce que c'est le fun? Moi, j'en veux. En veux-tu, n'en veux-là? J'en veux.
On avait une déesse du party pyjama, pareil.
Oui, puis on avait ce qu'on appelle des maîtres confineurs. Et beaucoup de maîtres confineuses aussi. On avait Cécile Pfizer, on avait Diane Lamar, on avait, tu sais, il y en avait plusieurs là, comme ça. Et dans les médias, on avait entre autres Geneviève Peterson qui nous disait « Enfermé chez moi, j'ai adoré ». Et elle disait aussi « Et si je n'en veux pas, moi, de la vie d'avant ».
Aïe, aïe, man.
Ça, c'était ce qu'il nous disait. Mais j'ai un
autre 21 mai 2021.
Ouais. Et j'ai un autre texte d'elle qui s'appelle « Militant anti-mesure et fin de pandémie », dans lequel elle dit « Pourquoi les gens là, manifestent, là, c'est terminé. Après quoi ils vont s'insurger après? T'sais, dans le fond, c'est terminé. On revient comme avant, puis il n'y en a pas de problème. Ces gens-là n'auront plus de cause. » Et là, ça, c'est...
la barnache.
Ouais. Aïe, aïe. Ça, c'est « How it start, and now we're going to the future, which is now the present. » Les prix à l'épicerie me donnent mal à la tête. Et ce, même si je suis capable de gagner ma vie. C'est épouvantable de sortir avec deux sacs et que ça coûte 3-5 de piastres. C'est terrible de voir les fruits et les légumes pourris sur les étalages. En prime, mon magasin préf.
C'est quoi ça veut dire, ça, mon magasin préf?
Je sais pas, elle écrit un peu comme ça avait 14 ans, mais ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est ça. Bref, c'est là qu'on est, les amis. Nous, c'est la santé d'abord, l'économie ensuite. J'ai-tu inventé cette phrase-là ou elle a été prononcée à moult reprises?
Ah, souvent.
Souvent. Mais là, les amis, on ramasse les pots cassés de ça, les déficits qui ont accumulé. Oui, c'est beaucoup de nouvelles dépenses. Il y a beaucoup de cochonneries là-dedans. Ils l'ont avoué eux-mêmes que les dépenses COVID qui se sont inventées, là, les masques...
à 3 milliards.
C'est 3 milliards par année dans le trou. Puis ça, là, c'était applaudi par tout le monde. C'est moi non, mais la santé d'abord, puis une vie n'a pas de prix. Mais là, une vie n'a pas de prix, là. Regardez ce que ça vous coûte partout, puis posez-vous la question si c'est vrai.
Je suis allé aux galeries de la capitale. Les galeries se sont vraiment remises à neuf. Pour vrai, là, tu sais, il y a plein de nouveaux magasins que j'avais pas vus, je connaissais pas, puis des beaux magasins, puis un petit peu plus de magasins haut de gamme qu'avant. Fait que, ouais. tu commences à te douter que les galeries de la capitale semblent quand même en santé pas pire. On sait que ça a été tough pendant la pandémie. Ils prenaient tout ce qui passait pendant la pandémie. T'sais, c'était pas facile là, pendant la pandémie. Fait qu'ils ont loué des grands locaux au gouvernement pour le centre de vaccination qu'ils ont mis là.
Ouais.
Quand tu passes, tu es dans le gros centre d'achat de luxe partout. Les jeux pour les enfants, les familles, tout ça. Quand tu arrives dans le bout du centre de vaccination, c'est lait. Même le gouvernement, quand il prend un espace dans un centre d'achat qui est rendu un centre d'achat de luxe quasiment, là, ben, il trouve le moyen que ça ait l'air d'avoir été fait dans les années 70, sacrément.
Ah non, mais je te le dis, eux autres, tout ce qui touche se transforme en quelque chose de laid.
Tout. C'est incroyable.
Tu le passes Megan Fox deux semaines, ça revient, c'est Brigitte Macron. C'est pas compliqué, là. C'est...
Mais le pire, c'est qu'est-ce que ça fait encore dans un centre d'achat, un centre de vaccination? Man, les boomers sont rendus à 9 doses. Là. Je pense qu'ils sont corrects.
Oui, c'est là. Chris, ça finit quand votre affaire, là?
C'est donc correct, là, à un moment donné, là.
Hey, ça va être beau, là, le niaisage, là. Et là, tu sais, ils ont pas l'air non plus de comprendre là, que le style délire de la taxe carbone, là, maintenant, il va falloir en revenir de ça. Là, tu sais, je lisais le texte de comment elle s'appelle, là, José Legault 2.0. Là.
Ah, Elsie.
Elsie. Là, elle a dit, hey, Poiliev, il raconte n'importe quoi, ce gars-là, c'est-tu un crosseur? La taxe carbone, elle s'applique même pas au Québec. Puis toute la patente, c'est vraiment un crosseur.
Hey, pis, il y a une leçon d'humilité qu'Elsie devrait prendre. Elsie, si tu vois un chiffre dans un texte, là, trouve-toi un autre sujet. Sérieusement. Là.
Ouais, ça pourrait. Ça pourrait être une
idée. Ça va mieux aller.
Et là, tu sais, c'est parce que moi, je regarde des gens que je pense qu'on peut considérer comme sérieux, entre autres The Food Professor, qui lui nous dit, ouais, l'histoire des économistes qui endorse.
Elsie, sur son tweet, elle s'est fait ratio de solide. Hein?
Ouais, mais ça, elle se fait souvent ratio, je te dirais.
Tabarouette, man. 403 commentaires, 128 likes.
Ouais, mais son texte, il est encore plus mauvais que celui de Vincent, pas tant de choses.
La taxe carbone va augmenter le 1er avril, une taxe qui appauvrit la classe moyenne et les plus pauvres, ceux qui polluent le plus. Ont pas de taxe carbone, vous voulez laver plus blanc que blanc. Cette taxe ne s'applique même pas au Québec. Personne ne veut de cette taxe. Cela ne s'applique même pas au Québec. C'est ça l'argument qu'il y a là?
Ah, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi, là, ce qu'elle dit. Elle raconte vraiment n'importe quoi, puis je vais venir au tweet de Vincent après. Mais Charles Bois lui dit, par rapport à l'histoire des économistes qui défendent ça, là, il dit « several », je vais vous le mettre en français, il dit « plusieurs économistes ont récemment endossé une lettre en faveur de la taxe carbone. Mais ne vous y trompez pas, cette initiative est portée par environnement.ca qui vise à mobiliser les universitaires pour contrer les critiques à l'égard de la taxe carbone. Il dit « j'ai personnellement choisi de ne pas la signer parce que je pense qu'il y a des manières plus effectives de s'attaquer au changement climatique. » Here is the actual letter, very partisan, particularly the last part. Et là, on a la lettre à la fin qui dit Unfortunately, the most vocal opponent of carbon pricing are not offering alternative policy to reduce emission or meet our climate goal. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est carrément un mensonge qui est écrit dedans. Là. En gros, ce qu'il a dit, c'est ceux qui sont contre la taxe carbone, ils n'ont aucun plan ou aucune proposition pour réduire les émissions de gaz. C'est pas vrai. C'est
quand
faux.
Tu dis, puis by the way, quand tu dis environnement CA, c'est quoi? C'est Environnement Canada. Là. C'est le ministère.
Oui, c'est le ministère.
Mais moi, je comprends pas que des académiques reçoivent une invitation à signer un document écrit par le gouvernement puis qu'ils mettent le nom là-dessus. Man, l'indépendance économique, vous arrêtez pas de nous parler de ça. Qu'est-ce que vous faites là?
Non, écoute.
Vous servez de mouthpiece au gouvernement. À quoi vous pensez?
Non, jamais moi je signerai un affaire de même. Jamais. Mais bref, ça c'est ce que Charles Bois avait à dire sur le truc. Allons voir ce que Vincent avait à répondre, notre ami Vincent Gélozo, que je considère, mettons, plus crédible en termes d'économie qu'Elsie Lefebvre. Vous me pardonnerez, hein, c'est un préjugé peut-être de ma part, là. Mais voici le tweet de Vincent. À propos de l'argument du Bloc québécois, que la taxe ne s'applique pas au Québec, la taxe carbone, donc l'argument du Bloc qui est celui d'Elsie Lefebvre, hein, grosse surprise, c'est vrai, mais uniquement dans un sens légal. Rappelons une chose que les économistes disent souvent. Les distinctions légales sont généralement un piètre synonyme pour définir les effets d'une politique publique. Par exemple, on dit qu'une taxe X s'applique sur les producteurs qui vont la payer. Cependant, ce qui détermine qui paie véritablement, il faut regarder l'élasticité de l'offre et de la demande. Celui qui paie plus, c'est celui qui est le plus inélastique du point de vue du prix de la taxe. Ainsi, une taxe peut légalement être payée par le producteur, mais pratiquement, elle sera payée par le consommateur. Est-ce que sont capables de comprendre ce genre de truc-là? Donc, et conclusion, il est tout à fait possible que légalement, la taxe ne s'applique pas au Québec, mais qu'elle s'applique en pratique. Les consommateurs québécois qui achètent des biens intermédiaires du reste du Canada peuvent payer la taxe si la demande pour ces biens est inélastique au prix. Tout ce que le Bloc peut dire, c'est que la taxe sur le carbone essaie de réduire le fardeau de la taxe pour les Québécois, mais il est 100% faux de faire l'équivalence entre l'argument légaliste que la taxe ne s'applique pas au Québec et l'idée que la taxe n'a aucun effet au Québec. Ce qui est tragique, et là, c'est le meilleur bout du tweet de Vincent, ce qui est tragique, c'est que le Bloc québécois a un député, Jean-Denis Garon. Ça, c'est le gars qui ressemble à un infoman, qui est un économiste en finances publiques qui devrait connaître la distinction entre les deux. En fait, je sais qu'il la connaît. Il a littéralement écrit un article sur la taxation optimale qui requiert la distinction que je viens de faire. Ça veut dire que les nécessités politiques l'ont obligé à faire fi de ce qu'il sait afin de dire ce qui est politiquement utile.
Mmh.
En d'autres mots, vous êtes des crosseurs. Ils nous ont fait la même affaire, Yann, dans le temps de « Ah, il faut taxer Netflix ». Rappelles-tu de ça?
Oui.
Puis nous autres, on disait « Ben voyons, mais c'est nous autres qui vont payer la taxe. » Officiellement, il n'y a pas un papier nulle part qui dit « Hey, le gouvernement charge une taxe aux Québécois ». Mais quand tu dis que Netflix doit maintenant percevoir la TPS ou la TVQ sur le service qu'ils vendent, ce que tu fais concrètement, donc en pratique, c'est que tu taxes les gens qui achètent le service. Et les gens qui achètent le service, c'est moi, c'est Yann, c'est Joey, c'est les auditeurs qui nous écoutent. Donc, légalement, oui, elle a raison. La taxe carbone, il n'y a pas de taxe carbone fédérale au Québec pour l'instant. Mais en pratique, on la paye pareil. À chaque fois que vous achetez un steak à l'épicerie qui a été élevé en Alberta, où les gens la payent, la taxe, vous pensez que vous ne la payez pas, la taxe carbone? Bon, mais d'après moi, vous la payez pas mal. Chaque fois qu'il y a un camion qui amène des marchandises au Québec, en provenance de l'Alberta, Saskatchewan, BC et autres, vous la payez?
Tout à fait.
Donc, on la paye, là? Chris, c'est quoi cette histoire-là? Vu que sur un bout de papier, c'est écrit qu'elle ne s'applique pas au Québec, donc on ne la paye pas. Genre, à quel point il faut être débile pour dire un affaire de même? Ou inculte, là, soyons généreux. OK, genre, ça, ce que j'ai dit, inculte. Ça va être plus gentil.
Je sais plus quoi te dire. Moi, de voir des chroniqueurs, des journalistes investir du temps, des efforts, de la bave, puis des mots pour essayer de nous rentrer dans le fond de la gorge, que c'est correct de laisser tous les Canadiens se faire taxer sa taxe carbone, qu'on ne devrait pas s'occuper de ça, là.
Ben déjà, ça, c'est vraiment un argument cave à la base, là.
Moi, je la comprends pas, là. On le sait tous, c'est pourquoi. Il y a un gars, croqueur de pommes, qui se promène partout dans le pays avec un slogan qui est « axe de taxe ». Tout le monde comprend ça. Il y a du succès partout au pays, sauf dans le Dôme. Là, on dit, ouais, mais là, lui, le clown, là, avec son axe de taxe, il ne peut pas avoir de succès. Ça ne s'applique pas. Continuez de voter pour le gérant d'Éric Lapointe, là. Arrêtez de vous casser la tête avec la taxe. Ça ne s'applique pas, axe de taxe. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça ne s'applique pas au Québec.
Depuis quand qu'on s'occupe, Yang, des affaires qui s'appliquent ici, en passant? Même s'il avait raison, on passe notre temps à parler d'affaires qui ne nous concernent pas, l'avortement aux États-Unis, la guerre en Ukraine.
Denis Arafat avec son affaire, mon homme, sur « le Hamas après un cessez-le-feu ». C'est ça. Denis Arafat peut nous dire que ça prend un cessez-le-feu à Gaza, mais il ne faudrait pas qu'on se prononce à la taxe carbone.
D'après moi, le cessez-le-feu ne s'applique pas au Québec, là. J'ai juste ça à dire de même. La taxe carbone, ça ne me concerne pas, mais Gaza, ça me concerne. D'après moi, là, c'est quoi en ordre de priorité? Là, de...
C'est des crosseurs.
Ah, c'est des crosseurs. Il n'y a rien d'autre à dire.
Elsie Lefebvre pousse le Bloc québécois. Elsie Lefebvre est une militante. Vous en êtes consciente, j'espère. Tout le monde. C'est ça?
Ouais, j'espère le que pire, les gens c'est sont que... conscients.
Le pire, c'est que c'est une militante de piètre qualité. De robots répétés 50 fois à tout le monde qui t'insulte sur les réseaux sociaux que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec. Man, un, t'as tort. Elle s'applique indirectement, mais elle s'applique. Et deuxièmement, c'est-tu ton seul argument? C'est vraiment ton seul argument? Là?
Pourquoi faut que je me préoccupe de Danielle Smith, ce qu'elle veut faire avec les transgenres en Alberta? Mais la taxe carbone, il faudrait que je fasse comme si ça n'existe pas.
Puis je vais te dire une troisième chose. La raison pourquoi elle n'est pas appliquée au Québec, c'est qu'on avait déjà notre plan de débile, nous autres.
Ouais, c'est ça.
Si, mettons, tu arrives et tu te rends compte qu'au Canada, le slogan « axe de taxe » fonctionne bien. Pourquoi, comme intervenante dans les médias, tu ne te prononcerais pas en faveur de l'abolition de la taxe carbone au Québec, celle provinciale, le cap and trade avec la Californie. Pourquoi vous ne prononceriez pas contre ça? Ça a toujours été implanté, ces cochonneries-là, de la même façon. Ah, vous allez voir, ça va nous permettre d'avoir des meilleures routes, ça va nous permettre d'investir en environnement. Oui, ça va vous permettre de donner de l'argent à NordVolt.
Oui. C'est
surtout ça que ça a permis,
ouais.
Là.
Écoute, on va passer à la partie Patreon. J'ai le goût, on va faire une discussion un peu différente de d'habitude. Il y a Angus Reid qui a sorti un sondage sur les croyances des Canadiens. Tu sais, on se fait croire bien des affaires, puis j'aime ça, une fois de temps en temps, revenir sur ce sujet-là. Tu sais, on est athée maintenant, on est laïque, on croit. Nous autres, c'est terminé, les croyances irrationnelles. Bienvenue au 21e siècle. Les Canadiens sont des gens rationnels, puis il n'y a pas personne qui croit des affaires qui ne se peut pas. Fait qu'on va en parler dans la partie Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous. On a ça, puis on a aussi des extraits de... Joey a des trucs dans sa console, donc on va vider la console. Puis on a aussi un extrait de Marie-France Bazot avec Stéphane Bureau, qui semble-t-il est intéressant. Donc on va aller écouter ça derrière le paywall, chers auditeurs.